Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Étienne Brack.
15h pile, bonjour à tous, c'est BFM Business, c'est BFM Bourse, on est ensemble jusqu'à 18h, 3h pour analyser, commenter cette séance de rebond aujourd'hui à la Bourse de Paris. Après un CAC 40 qui était parfaitement stable hier soir à la clôture, on retrouve les 6700 points, 6720 points, une première depuis avril dernier, on verra tout cela dans un instant avec Aude Kersulek qui nous attend depuis Euronext. Dans une grosse demi-heure à 15h35, on parlera des matières premières également qui rebondissent très fortement, plus de 3% de variation à la hausse sur le Brent qui retrouve les 87 et puis à partir de 18h, même après l'émission, on continuera de parler de bourse avec notamment Amaury de Tonquédec, hein, vous savez, qui vous accompagne désormais tous les soirs aux alentours de 18h10 sur Twitter, sur LinkedIn pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser, bfmbourse@bfmbusiness.fr.
BFM Business, l'info éco.
L'info éco à 15h01 avec Nathan Troucampo.
À la une, enfin un signe encourageant sur le front de l'inflation. Elle recule dans la zone euro, 10% en novembre contre 10,6% le mois précédent. C'est la première baisse depuis 17 mois. En France, l'inflation se stabilise à 6,2% sur un an en novembre selon l'INSEE. La croissance du PIB est confirmée à plus 0,2% au troisième trimestre. La consommation des ménages, elle, enregistre sa plus forte chute depuis avril 2021. Elle baisse de 2,8% en octobre. Et aux États-Unis, la croissance du PIB est plus forte qu'attendue, 2,9% au troisième trimestre en rythme annualisé, contre 2,6% en première estimation. Emmanuel Macron à Washington, c'est la première visite d'État organisée par Joe Biden. Dans une heure, le président français discutera coopération spatiale avec Kamala Harris. D'autres réunions sur la transition énergétique et le nucléaire sont aussi prévues aujourd'hui. HSBC va fermer 114 agences en Grande-Bretagne, à partir d'avril prochain. La banque justifie cette décision par l'évolution du comportement des clients qui effectuent de plus en plus leurs opérations bancaires en ligne. HSBC précise vouloir investir des dizaines de millions de livres pour moderniser et améliorer ses 327 agences restantes. H&M va supprimer 1500 emplois pour réduire ses coûts. Le groupe suédois, qui emploie 155 000 personnes dans le monde, a lancé en septembre un plan visant à économiser 2 milliards de couronnes suédoises par an. Renault et Airbus s'allient dans la batterie électrique du futur. Les deux groupes ont signé un accord de recherche pour concevoir une batterie solide destinée aux voitures électriques et aux futurs avions hybrides. Une technologie qui pourrait permettre des gains de coût, de poids et une plus grande autonomie. Vos rendez-vous du jour sur BFM Business. Antoine Monin, directeur général France de Spotify, sera l'invité de Good Evening Business. C'est ce soir à 19h15 et on retrouve Sidonie Dumas, directrice générale de Gaumont. Elle sera l'invitée d'Edwige Chevrillon dans la grande interview à 19h30.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Merci beaucoup Nathan. Prochain point avec l'actualité, ça sera tout à l'heure à 16h. Juste avant, comme promis, on va à Euronext, à La Défense, rejoindre Aude Kersulek qui nous attend pour faire un point sur cette séance avec un CAC 40 qui retrouve les 6700 points cet après-midi. Aude.
Oui, c'est ça, avec une hausse, après c'est les tergiversations des derniers jours, le CAC 40 qui est en hausse de 0,7%, on est à 6719 points avec des indices européens qui sont globalement en hausse, hein, plus 0,6% pour l'Eurostock 50 ou plus 0,2% pour le DAX, c'est moins prononcé hein, du côté de Francfort. Alors le CAC superforme aussi parce qu'on a plusieurs forces qui poussent à cette hausse. On regarde alors beaucoup de ce qui se passe du côté de la Chine avec un Nasdaq assouplissement du confinement dans la région de Canton, un ralentissement donc de l'inflation en Europe, on en a parlé, même si ça reste quand même très élevé, il est là ce ralentissement. Le ralentissement aussi des créations d'emplois aux États-Unis. Alors c'est le rapport ADP qui vient de sortir, c'est les créations d'emplois privés qui ralentit à 127 000 au mois de novembre. Ça confirmerait hein, le fait que la politique monétaire a quand même des effets et que donc il serait peut-être temps de l'assouplir. On a donc une baisse des taux obligataires hein, sur les marchés de taux. Et tout ça, eh bien, ça porte le luxe secteur de croissance, secteur très exposé à la Chine, qui s'affiche dans les premières places de ce CAC 40. On a LVMH qui monte quand même de 3,5%, Hermès plus 3,3%, 1533 euros. On a Kering et L'Oréal aussi qui montent de plus de 2%. Elles sont toutes là, hein, les valeurs du luxe. Et puis, à la baisse, Sanofi qui baisse sur une rumeur de marché qui concerne un rachat d'une biotech irlandaise, moins 2,6% à 85 euros. C'est la plus forte baisse. À noter que du côté de Wall Street, on attend des une ouverture en ordre dispersé, proche de l'équilibre d'ailleurs, hein, pour les indices américains. Et puis, on aura ce soir Jérôme Powell qui prendra la parole dans le cadre d'une conférence à Washington. Alors, on attend, on verra s'il rassure les investisseurs avec un ton un petit peu plus accommodant. En tout cas, les marchés, à l'approche de ce mois de novembre, on devrait signer un bon bilan pour ce mois de novembre, puisqu'on devrait être en hausse de 7% donc pour le mois de novembre à Paris.
Aude Kersulek, on vous retrouve dans un instant pour parler des plus fortes baisses du jour. Juste avant, on retrouve Julien Klistrebert qui nous attend depuis Montségur Finance. Bonjour Julien, merci d'avoir répondu à l'appel de BFM Business pour notamment aborder le cas de Sanofi, hein, qui plombe un petit peu le CAC 40 aujourd'hui, moins 2,7% pour Sanofi à 85,83 €.
Oui, tout à fait. Donc, des rumeurs d'acquisition d'Horizon Therapeutics, hein, donc un groupe irlandais coté à la bourse, aux États-Unis sur le Nasdaq. Un acteur assez intéressant avec des activités assez dynamiques, notamment sur les maladies inflammatoires, où l'une de leurs molécules devrait connaître encore une croissance assez importante, qu'un pic de vente a tenu à plus d'un milliard d'euros. Et puis l'autre traitement, Tepezza, donc qui traite les maladies oculaires thyroïdiennes, qui pourrait atteindre un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards. Une acquisition assez importante en taille, hein, puisqu'on parle d'une opération qui devrait être comprise entre 20 et 30 milliards de dollars de prix. Donc effectivement, Sanofi a les moyens de ses ambitions, hein, pas de dette au bilan, mais ça reste quand même une taille d'acquisition assez significative. Le point positif, évidemment, c'est que ça redonnerait de la dynamique de croissance au groupe. Ça veut sans doute dire aussi qu'ils sont assez confiants sur les négociations en cours par rapport au procès qui pourrait avoir lieu sur le Zantac. Et donc, sur lequel on attend quand même, hein, la décision du tribunal d'arbitrage d'ici la fin de l'année, et qui, je vous rappelle, a fait perdre près de 10 milliards de capitalisation boursière au titre. Voilà, donc à suivre. Ils ne sont pas tout seuls sur Iran. Il y a aussi Amgen et Johnson & Johnson qui sont sur le dossier.
Qui sont sur le dossier. Visiblement, ça ne rassure pas les investisseurs, de peur peut-être que ce soit une acquisition un petit peu trop grosse à digérer si jamais elle se réalise.
Oui, il y a ça. Et puis aussi sur les multiples, sur Horizon Therapeutics, puisqu'ils ont, sur la dernière publication, ils avaient un petit peu déçu sur leur médicament star, donc le Tepezza, puisqu'on avait une croissance de seulement 6%. Bon, ils ont expliqué que c'était passager, mais c'est vrai que ça peut faire craindre au marché que Sanofi aille surpayer pour absolument avoir un profil de croissance qui soit plus dynamique, puisqu'on le sait, le groupe, hein, par rapport au reste du secteur pharma, souffre d'une décote assez importante, un peu aussi mis au procès en cours éventuel, mais aussi parce que le marché considère qu'elle n'a pas un profil de croissance suffisant par rapport à un Novo Nordisk ou un AstraZeneca par exemple.
Et ce titre qui ferme la marche aujourd'hui, moins 2,6%, 85,89 €. Si on sort du CAC 40 cette fois et que l'on regarde le SBF 120, il y a un titre qui caracole en tête, c'est Trigano, plus 6,3%, plus forte hausse du SBF 120, 118,90 €. Après la publication de résultats records hier soir, les camping-cars qui continuent de cartonner, Julien.
Oui, tout à fait. Une publication de bonne qualité, mais bon, sensiblement en ligne avec les attentes, avec un seul petit point négatif, hein, la hausse du besoin en fonds de roulement qui monte assez nettement. Mais globalement, une bonne publication et surtout un discours très optimiste, hein, pour le prochain exercice. Le groupe assiste sur le fait que son carnet de commandes est plein pour 2023, que le stock est relativement bas, enfin les stocks, pardon, chez les distributeurs est relativement bas. Ils sont en train de résoudre le problème de châssis qu'ils avaient beaucoup pénalisé. C'est pour ça qu'ils étaient sortis, en tout cas, de leur fournisseur exclusif qui était Stellantis et Ford pour aller chercher aussi des approvisionnements chez Mercedes. Donc, il signifie qu'aujourd'hui, on est revenu à la normale et qu'ils pensent pouvoir, en tout cas, réaccélérer sur la production. Donc, ça, c'est évidemment une très bonne nouvelle. Un groupe, donc, qui a une bonne visibilité, une bonne marge, un bilan très solide, hein, puisqu'on devra avoir mi-2023, près de 300 millions d'euros de trésorerie disponibles au bilan, donc pas de souci là-dessus. Une valorisation relativement faible, bon, c'est souvent le cas dans le secteur, mais on est à 8 fois les résultats, donc il y a même une décote par rapport à d'autres acteurs. Voilà, le point aussi peut-être pour se projeter un petit peu, ils considèrent en tout cas qu'ils vont pouvoir commencer à travailler sur les premiers véhicules électriques, alors pas pour demain matin, hein, puisque pour un camping-car, évidemment, c'est un peu plus compliqué que sur une petite voiture, mais en tout cas, ils travaillent sur ce sujet-là aussi, donc voilà, et puis des matières premières qui sont un petit peu détendues, donc qui devraient leur permettre en tout cas d'afficher des marges solides sur les prochains trimestres sans aucun problème.
Et le marché qui achète donc cette publication, plus 6% pour Trigano à 118,80€. Merci beaucoup Julien. Julien Klistreberg qui donc nous accompagnait depuis Montségur Finance. On vous retrouvera tout à l'heure à 17h30 en plateau pour refaire cette séance. Et puis vous allez aussi refaire la séance avec Amaury Tonquédec à partir de 18h sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à envoyer vos questions à Julien, à Amaury, bfmbourse@bfmbusiness.fr. À 15h10, il est l'heure bien sûr de retrouver Odker Sulé pour continuer à regarder les variations de cette séance. On parlait des hausses avec notamment Trigano, mais Aude, vous avez aussi repéré pas mal de baisses, à commencer par Rexel qui ferme la marche aujourd'hui sur le SBF 120 avec une baisse de plus de 5%.
Oui, c'est ça, si ça marche bien du côté des caravanes et des camping-cars chez Trigano, bah, c'est un petit peu moins le cas du côté des câbles électriques. En tout cas, c'est ce que pense savoir un analyste de chez Exane qui a dégradé les recommandations de deux valeurs de ce secteur, Rexel et Nexans. On est passé à neutre hein, sur ces deux valeurs chez Exane au lieu de surperformance. Alors, ça pénalise hein, pas mal ces valeurs. On a effectivement Rexel qui est la plus forte baisse du SBF qui perd 5,2% à 17,60€ et Nexans qui perd 4,5% à 85,40€. Ça signe quand même un ralentissement d'activité pour ces sociétés du raccordement électrique. On a aussi Casino à la baisse. Casino, alors on a eu l'annonce de cette session il y a quelques jours, en tout cas d'un désengagement d'une filiale brésilienne qui s'appelle Assaí. Alors le prix de session est connu depuis ce matin. La valeur est en baisse de plus de 3,2%, un montant globalement inférieur hein, du prix par action à ce qu'on aurait pu attendre, alors que Casino, fortement endetté, cherche à rassurer les investisseurs en réalisant des cessions. Si elles ne se passent pas au prix voulu, ça peut avoir cet effet contre-productif qu'on voit en ce moment sur la valeur. Donc, il se négocie à 10,72€. Et puis, du côté des baisses, mais là, sur le marché suisse, c'est le feuilleton Crédit Suisse qui continue, avec la valeur qui continue vraiment d'évoluer sur des bas-fonds historiques jamais atteint. On est à 2 francs suisses 86. On est encore en baisse de 1,5% cet après-midi, donc pour Crédit Suisse.
Merci beaucoup, Aude. On vous retrouve tout à l'heure dans un peu moins d'une heure à 16h pour suivre cette séance. Tout de suite, c'est l'écho du monde.
BFM Business. BFM Bourse. L'écho du monde en direct.
L'écho du monde en direct depuis Genève aujourd'hui avec Patrice Gautry qui nous fait le plaisir d'avoir répondu à l'appel de BFM Business, chef économiste à l'Union bancaire privée. Merci de nous accompagner aujourd'hui car on a besoin de vos éclairages, car on a eu beaucoup d'indicateurs macroéconomiques ces dernières heures. Revenons peut-être sur l'un des faits marquants de cette matinée, l'inflation en zone euro qui, ça y est, ralentit mais qui reste quand même toujours très impressionnante. 10% d'inflation au mois de novembre en zone euro sur un an. C'est un petit peu mieux que les attentes du consensus qui attendit 10,4.
Oui, tout à fait, il y a une amélioration. Alors, c'est une première étape à la baisse de l'inflation donc, dans la zone euro. Alors, première étape, donc, il y a encore beaucoup de risques. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde dans le détail, bien entendu, donc, la baisse provient de la baisse des prix de l'énergie. Alors, il y a eu différentes mesures dans différents pays qui étaient destinées à limiter les hausses de prix de l'énergie. Et puis, on a encore quand même à surveiller, ça c'est un facteur plutôt négatif pour l'inflation, donc d'accélération de l'inflation, les prix alimentaires et les prix des biens industriels qui sont encore sur un rythme relativement élevé. Mais effectivement, du côté de l'énergie, du côté des services d'ailleurs, il y a aussi une légère baisse, ce qui montre qu'effectivement, on est sorti un petit peu de l'effet tourisme ou l'effet vacances, donc maintenant, et on revient effectivement vers un rythme d'inflation qui est un petit peu plus modéré, donc ça a demandé du temps et on se retrouve en fait un petit peu comme le scénario il y a quelques mois aux États-Unis avec des prix globaux qui commencent à ralentir mais des prix qui eux ne bougent pas, on est toujours à 5% mesuré sur un an et bien entendu il en faudra un peu plus pour la Banque Centrale Européenne pour changer de politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour la réunion de décembre sur la base de cet indice de prix, c'est au minimum 50 points de base. Mais on l'a vu avec le récent discours de Madame Schnabel, on peut très bien avoir encore, pour une dernière fois peut-être, 75 points de base lors du prochain meeting, de la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne.
Et ça, c'est pour la zone euro, mais il y a aussi aujourd'hui les États-Unis à surveiller, avec tout à l'heure la publication du chiffre ADP, hein, enquête ADP sur l'emploi américain, avant la publication des chiffres officiels, hein, ça sera vendredi après-midi, avec donc enquête ADP, 127 000 créations de postes, alors que le consensus attendait 200 000, mais il y a beaucoup de variations hein, sur ces enquêtes ADP. Hein. C'est très volatile.
Oui, exactement. Et pour être franc, et on est entre nous, on ne sait pas trop comment les interpréter, en fait, ces enquêtes ADP, parce que ça n'est pas nécessairement, je dirais, un bon estimateur avancé de l'enquête des créations d'emplois qui vont sortir donc vendredi prochain. Alors, on la prend comme elle est, et ce qu'elle est, elle nous dit qu'il y a un ralentissement dans les créations d'emplois, avec notamment de forts ralentissements dans les très petites entreprises et les très grandes entreprises. Et ce serait les entreprises moyennes, donc entre 50 et moins de 200 employés, qui, elles, feraient l'essentiel en fait, de ces créations d'emplois, 227 000. Alors, en parallèle, il y a une autre statistique dans ADP qui est donnée sur les variations de salaire. Elles sont intéressantes parce qu'elles nous disent que les salariés auraient gagné, selon leurs enquêtes, des chiffres en progression de plus de 5% donc sur un an, mais que ceux qui changent d'emploi auraient gagné donc 15% sur des variations donc de salaire. Ce qui voudrait dire que si le chiffre de l'emploi attendu pour vendredi montre un ralentissement donc des créations, il faudra surveiller encore le chiffre des variations donc de l'emploi et on peut avoir effectivement des disparités entre une variation moyenne des salaires, mais aussi des variations entre ceux qui restent dans leurs entreprises actuelles et ceux qui gagnent un peu plus, effectivement, lorsqu'ils changent d'entreprise. Donc tout ça pour dire que ce soir, puisqu'on a, et on va conclure là-dessus en définitive, c'est que va dire la Fed ce soir, puisqu'on attend un discours de M. Powell, et bien sur ces statistiques-là, bien entendu, il n'y aura peut-être pas de changement par rapport à la nouvelle communication donc, de la Fed, qui pointe sur 50 points de base, mais où on attend peut-être des différences entre les différentes communications des gouverneurs et M. Powell, c'est sur le taux terminal. M. Powell avait laissé entendre que 5 ou 5,25, bien peut-être ce ne serait pas suffisant, alors que d'autres gouverneurs semblaient se contenter d'un prochain 5,25. Alors on ne sera pas encore en décembre, il faudra attendre la prochaine réunion en début d'année 2023 pour atteindre ce chiffre. Mais débat autour de quel est le taux terminal pour la Fed, c'est ce qu'on va essayer de regarder ou de comprendre dans les interlignes en fait, du discours de M. Powell ce soir.
Voilà, ça sera à 19h30, heure française, hein, donc prise de parole de Jérôme Powell, le patron de la Fed, qui va prononcer un discours à la Brookings Institution, et ensuite il va répondre aux questions, il y aura une session de questions-réponses. Un dernier mot peut-être, Patrice Gautry, sur les chiffres de la croissance aux États-Unis, hein, qui a été révisé aujourd'hui, deuxième estimation, qui montre au final que la croissance aux États-Unis a été plus forte qu'attendue, 2,9% de croissance au rythme analysé au deuxième estimation, après 2,6% en première estimation.
Oui, alors c'est le troisième trimestre, donc là on est effectivement un petit peu dans le temps passé. La consommation a été bonne, l'investissement des entreprises a été surprenamment bon, puisqu'on était avec un environnement dans lequel les indicateurs de sentiment dans l'industrie et dans les services baissaient en dessous de 50, donc à la fin du trimestre. Par contre, on a eu aussi, je dirais, de meilleures nouvelles en termes de contribution donc, du commerce extérieur et un peu moins de bonnes nouvelles du côté du stockage des inventaires. Donc, on retient en fait que l'image que nous donne cette économie américaine, c'est une économie qui certes ralentit, mais qui ralentit relativement lentement. Donc, d'où la question en fait, est-ce que c'est assez lent pour M. Powell ou est-ce qu'il faudrait qu'elle ralentisse beaucoup plus vite pour avoir les mêmes signaux confortables de ralentissement de l'inflation en parallèle, sachant qu'il y a quand même pas mal de bruit du côté du marché de l'emploi.
Merci beaucoup, merci Patrice Gautry, merci de nous avoir accompagnés depuis Genève aujourd'hui où vous êtes chef économiste de l'Union bancaire privée pour nous éclairer sur les différents indicateurs macroéconomiques du jour. Tout de suite, il est 15h19 pile, on va parler d'immobilier.
BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO.
La carte IMO avec Eric Cosra qui nous accompagne aujourd'hui en plateau, président de Perial. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints afin de parler notamment des SCPI, hein, puisque Perial est l'un des leaders sur ce métier. Pour parler des SCPI dans le contexte actuel, on en parle tous les jours sur ce plateau. On en parlait encore il y a un instant, les hausses de taux aux États-Unis, en Europe, une inflation qui est très forte, pas mal d'incertitudes, risques de récession pour 2023, le chômage qui monte, etc. Comment aujourd'hui le SCPI résiste face à cet environnement très incertain et très volatile aussi?
Alors, elle résiste plutôt bien, mais elle progresse également. Donc, je voudrais rappeler un chiffre, c'est qu'au troisième trimestre, elles ont collecté plus de 2,3 milliards d'euros de collecte, ce qui porte une collecte globale pour l'année à 7,6 milliards sur les trois premiers trimestres, ce qui est déjà supérieur à l'année 2021 au complet. Donc, ça veut dire qu'il y a une progression, elles sont en bonne santé, mais également elles trouvent l'attrait des épargnants qui continuent à investir dans ce type de produits. Alors effectivement, la période est un petit peu compliquée, c'est une période de transition avec un manque de visibilité, donc l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt, tout ça va avoir effectivement un impact également sur les produits SCPI, mais également avec des impacts bénéfiques. On pense à l'inflation, on parle de l'immobilier comme étant le produit aussi dont les revenus sont indexés à l'inflation, même s'il serait illusoire de considérer que les SCPI vont pouvoir répliquer 100% du taux d'inflation. En tout cas, ça donne une tendance sur une progression des loyers. Et puis également, le fait que nous avons quitté une période où l'argent était bon marché et même pas cher, était quasiment gratuit, vers donc une rémunération, donc des placements sans risque, et avec donc un delta qui s'amenuise entre le rendement des SCPI qui est prévu en moyenne à 4,5% pour l'année 2021, et avec une remontée donc des taux. Mais ça n'est pas le rendement des SCPI qui baisse, ce sont plutôt les rendements des produits monétaires qui augmentent, mais avec un delta qui reste encore confortable et avec une différentielle qui reste encore confortable et qui rend le produit SCPI encore compétitif pour cette année et probablement pour l'année prochaine.
Malgré les hausses de taux, parce qu'on était dans un environnement où il n'y avait pas trop d'alternatives, aujourd'hui vous avez un marché obligataire qui remonte, il y a des alternatives à la bourse, il y a des alternatives au marché immobilier. Malgré cela, vous dites en termes de collecte, pour l'instant, ça suit, on est sur des records?
Alors, on est sur des records pour cette année, pour l'année prochaine c'est une autre histoire, mais en tout cas effectivement il y aura un peu plus d'alternatives pour l'épargnant. Maintenant il y a une bourse qui est quand même extrêmement volatile et on sait qu'une catégorie d'épargnants aime une certaine résistance et une certaine tranquillité, et parce que à cause de la période anxiogène et incertaine, le placement SCPI est un placement un petit peu anti-crise, ou en tout cas dans lequel on aime se investir et se réfugier, parce que ce sont des actifs tangibles, ce sont des actifs immobiliers tangibles, réels, parce qu'il y a une certaine régularité et on n'est pas dans une certaine volatilité que l'on peut voir sur certains types de produits de placement.
En termes de perspective pour l'année prochaine, vous arrivez à avoir quelques tendances?
C'est compliqué de le voir parce qu'il y a, ce que je vous disais, il y a quand même des signaux contradictoires. Nous avons effectivement une remontée de l'inflation, hein, qui peut avoir un impact sur le comportement des entreprises, mais nous avons également des rémunérations qui vont continuer à résister. Nous allons également une tendance qui est des tendances importantes, c'est que l'immobilier est au cœur de nos changements structurels de société. On peut penser aux enjeux environnementaux qui sont importants et on voit que les Français et les épargnants sont un peu plus sensibles à la lutte contre le réchauffement climatique, et beaucoup de SCPI s'inscrivent dans cette démarche d'avoir un immobilier un peu plus vertueux et un peu plus sobre. Donc il y a plutôt des tendances intéressantes, comme le bureau également qui est en train de changer, avec des mutations qui sont en train de se faire, avec un immobilier de bureau on parle d'hybridation des modes de travail, donc intégrant le télétravail, intégrant également la présence au bureau indispensable, et puis toute une catégorie également d'actifs immobiliers diversifiés. On peut penser également aux maisons de retraite, aux résidences seniors, aux résidences étudiants. Donc un immobilier qui touche la préoccupation et le besoin des Français de se loger, et donc cet immobilier va continuer encore à se développer et donc à traverser l'année 2023 malgré les tendances qui sont contradictoires et qui peuvent être effectivement un petit peu anxiogènes ou en tout cas plus négatives qu'en 2022.
Oui, parce qu'on voit sur le marché action de plus en plus de labels, investissements responsables, etc. Mais on le voit aussi de plus en plus sur le secteur immobilier, hein, sur les fonds que vous proposez, comme d'autres acteurs, où au final, on regarde aussi la performance énergétique des bâtiments. Ça, c'est un critère que les épargnants regardent aujourd'hui la performance énergétique?
Ils y seront de plus en plus sensibles, notamment dans ces périodes de réchauffement climatique, dans ces périodes d'hiver aussi qu'on va connaître, où il va y avoir notamment des mesures au niveau de l'entreprise pour pouvoir diminuer ces charges qui sont importantes et donc diminuer la température au sein des bureaux. Donc tous ces sujets-là sont des sujets d'actualité qui ne font qu'accélérer la transition énergétique dans laquelle nous sommes placés, dans laquelle beaucoup de sociétés de gestion se sont inscrites. Vous parlez effectivement du label. Il y a eu le label ISR, investissement socialement responsable, dans beaucoup de sociétés, d'opérateurs immobiliers se sont saisis et nous avons maintenant effectivement un label ISR immobilier. Et donc tout ça va dans un sens d'un immobilier qui est en transformation. Et donc un immobilier en transformation, c'est justement un immobilier avec certaines classes d'actifs qui vont se déprécier et être obsolète, hein, donc il ne faut pas non plus voir aussi que l'univers va avoir un impact sur les taux de rendement, hein, notamment l'augmentation des taux d'intérêt et des taux de crédit, mais néanmoins il va y avoir une reconfiguration et donc un immobilier nouveau qui va s'en sortir. Et c'est, après ça, c'est tout le talent des sociétés de gestion de pouvoir capitaliser et de s'engager et d'investir sur justement cet immobilier plus vertueux, plus sobre et donc plus rentable au final.
Quand vous parlez obsolète, vous pensez à quoi? Quels sont aujourd'hui, en termes de perspectives, les secteurs où on se dit « non, ce secteur-là, aujourd'hui, c'est passé, on ne regarde plus ».
Il y a une grosse configuration qui est en train de se faire. Je pense qu'il y a des immeubles qui sont un petit peu éloignés des transports en commun, qui sont dans des, qui ont des structures qui ne sont plus tellement adaptées aux nouveaux usages, où maintenant on a besoin de plus de parties communes, de parties où l'on partage ensemble et moins ces bureaux un petit peu isolés que l'on a connus. Également en ce qui concerne l'architecture ou la consommation d'énergie, donc des immeubles qui sont moins adaptés parce que très exposés, parce qu'on a des immeubles énergivores. Et donc toute cette immobilier de bureaux a une espèce d'obsolescence qui n'est pas la première fois. Et donc le produit SCPI a 50 ans et donc a connu beaucoup de crises. Et c'est toujours adapté justement à cet changement et ces mutations de manière à avoir un immobilier de bureau qui plaît de plus en plus aux entreprises. Et quand l'immobilier de bureau rencontre le besoin des entreprises, il soutient d'abord une activité économique réelle. Et ensuite de ça, il a effectivement toute sa place et il est rentable parce qu'effectivement, il a des locataires qui payent leur loyer et qui sont prêts à payer un loyer un peu plus cher à condition d'avoir justement ce confort et cette qualité au travail.
Donc il arrive à avoir un pricing power, hein, comme on dit, une capacité à pouvoir répercuter les hausses de prix aussi sur les SCPI.
Exactement, ça va être l'enjeu pour 2023.
Merci beaucoup Eric Cossera, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le président de Périal. Merci d'avoir fait un point aujourd'hui donc sur le secteur des SCPI, donc notamment sur les perspectives et puis aussi un premier bilan de l'année 2022. 15h27, on est toujours en direct bien sûr sur BFM Business. Très courte pause et puis on se retrouve dans un instant avec Sabrina Cogliozzi pour l'ouverture de Wall Street avec, on le verra, une ouverture qui s'annonce plutôt mitigée, mais pour l'instant ça n'a pas trop d'impact sur le CAC 40 qui est toujours au-delà des 6700 points. On se retrouve dans un instant, à tout de suite.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Étienne Brack.
15h30, c'est BFM Bourse, on est toujours en direct. C'est l'heure de l'ouverture des États-Unis, de la bourse aux États-Unis, de Wall Street. On rejoint sans plus tarder Sabrina Cogliozzi qui nous attend. Comment ça se passe chez vous, Sabrina, avec une séance du côté des États-Unis là, qui a l'air de se passer en ordre dispersé, plutôt mitigé là, ce matin chez vous aux États-Unis?
Bonjour Étienne, ravi de vous retrouver. Oui,
avec
effectivement,
plaisir.
On est sur une tendance sur ces marchés américains qui est assez mitigée. Alors, faut regarder ce qui s'est passé déjà hier aussi. Hein. On était partagé. On a un Dow Jones qui a terminé la séance en petite progression, qui a sauvé les meubles. En revanche, pour le S&P 500 et le Nasdaq, c'était la troisième séance de baisse d'affilée. Alors aujourd'hui, bien sûr, les investisseurs attendent le discours du patron de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, qui doit s'exprimer dans l'après-midi. Ils attendent les moindres détails concernant l'évolution de la politique monétaire aux États-Unis, éventuel ralentissement après quatre hausses d'affilée de 75 points de base. Le marché attend dans l'ensemble 50 points de base pour la prochaine réunion des 13 et 14 décembre prochains. Alors les statistiques du jour, elles sont partagées, figurez-vous. On a eu donné des données concernant le marché de l'emploi, l'enquête ADP dans le secteur privé. Alors là, ça va dans le bon sens pour un ralentissement des hausses de taux d'intérêt, puisque l'on a eu 127 000 créations de postes seulement sur le mois de sur le mois écoulé aux États-Unis, novembre. On en attendait 190 000. C'est à comparer avec les 239 000 sur le mois d'octobre. Ce sont les plus faibles créations de postes depuis le mois de janvier. En revanche, on a eu un PIB, les chiffres du PIB, la croissance américaine, avec une révision à la hausse 2,9% au troisième trimestre contre 2,6% sur la première estimation. Du coup, bah, on a un obligataire qui se tend, 3,77. Le marché action, lui, ouvre la séance sur une note partagée. Oui, on est quasi inchangé sur l'indice Dow Jones, quasi inchangé également du côté du S&P 500 ou le Nasdaq qui, on passe au-dessus des 11 000, plus 0,2%. On ne devrait pas faire grand-chose. Donc, en attendant ce discours de Jérôme Powell tout à l'heure.
Tout à l'heure, ça sera à 19h30 pour nous, heure française. Du côté des valeurs à suivre, vous avez repéré Tesla, Netflix et CrowdStrike, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, oui. Tesla, tout d'abord, qui voit sa dominance aux États-Unis s'essouffler nettement. Tesla comptait pour environ 71% des nouveaux véhicules électriques sur le troisième trimestre en 2021, l'année dernière, 79% en 2020. Cette année, figurez-vous qu'on est à seulement 65% et on devrait tomber à sous les 20% selon les calculs de S&P Global Mobility. C'est dû bien sûr essentiellement au fait qu'il y a de plus en plus d'acteurs dans le secteur. Malgré ce net ralentissement, le volume de vente de Tesla devrait continuer de grimper. Il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire, puisque si on regarde le marché électrique, les modèles électriques représentent environ 5% des véhicules enregistrés aux États-Unis. Un coup d'œil sur Tesla qui est sur une petite hausse d'1,5% ce matin. Netflix, de son côté, est bien orienté, plus 1,2% après une note de KeyBank positive sur Netflix, qui estime que Netflix pourrait profiter du méga succès de Wednesday. La nouvelle série autour de la famille Adams, 341 millions d'heures passées à regarder la série sur la première semaine de sortie de cette série. C'est plutôt pas mal et donc, encore une fois, KeyBank estime que ça devrait bien profiter à Netflix. Ça profite en bourse en tout cas, puisqu'on est sur un gain d'1,3% ce matin. Et puis CrowdStrike, dans la cybersécurité, c'est le résultat du jour. Et c'est pas terrible. Grosse déception, notamment sur le nombre d'abonnés nettement inférieur aux attentes et gros gadin, puisqu'on perd 20% sur ce titre ce matin à l'ouverture, $110.61. Voilà donc pour ce début de séance sur ces marchés américains. On attend bien sûr ce discours de Jérôme Powell tout à l'heure et pour le moment, on ne prend pas trop de risques. Petite hausse désormais pour l'indice Dow Jones, 33 873 points. Le S&P 500 grimpe de 0,15%. Le Nasdaq accélère légèrement ses gains, plus 0,4%. À tout à l'heure, Étienne.
Merci beaucoup, Sabrina. À tout à l'heure. Et donc, séance positive également en Europe avec un Eurostoxx 50 qui gagne 0,7%, un CAC 40 qui gagne 0,8%. Au-delà des 6 700 points, 6 720 points, une première depuis avril dernier, grâce notamment au secteur du luxe qui caracole en tête aujourd'hui. LVMH, la plus grosse pondération, plus 4%, 731 euros. Hermès, deuxième meilleure performance, plus 3,8% à 1540 euros. Vous avez encore Kering qui gagne plus de 3% à 570 euros, avec notamment des espoirs concernant un assouplissement des règles sanitaires en Asie. C'est en tout cas le pari du marché aujourd'hui et ça permet aujourd'hui donc de retrouver les 6700 points sur le CAC 40. À l'inverse, c'est un peu plus compliqué pour Sanofi qui perd un peu plus de 3% avec donc Sanofi qui est sur le point, en tout cas discute pour racheter Horizon Therapeutics. C'est un des informations de presse qui ont été confirmées ces dernières heures. Pour l'instant, on est sur des discussions très très préliminaires, mais ça ne rassure pas le marché. Plus forte baisse du CAC 40. Aujourd'hui, Sanofi, 85,35 €.
BFM Business, BFM Bourse, mouvement de marché.
Mouvement de marché avec Benjamin Louvet aujourd'hui qui nous accompagne en visio depuis Ophi Asset Management dont il est gérant matières premières. Merci d'avoir accepté notre invitation Benjamin Louvet afin notamment de nous apporter votre éclairage sur les matières premières qui sont particulièrement volatiles ces dernières heures avec notamment les informations concernant la Chine avant notamment également une réunion de l'OPEP+, ça sera dimanche en visio. En tout cas aujourd'hui vous avez le baril de Brent qui gagne un peu plus de 3%, qui repasse la barre des 87 $, un petit peu comme le marché action. Ces dernières heures, on a des mouvements à la hausse avec l'espoir que la situation en Asie se termine bien, on a envie de dire, enfin tout du moins qu'elle se passe mieux dans les prochaines semaines. C'est le pari du marché aujourd'hui.
Oui, bonjour Étienne. Je crois qu'effectivement le marché acte aujourd'hui toutes les déclarations qui vont dans le même sens, celui d'un assouplissement des conditions de confinement en Chine, avec des regroupements qui sont autorisés, un abaissement des obligations en termes de tests, une poussée de la vaccination, notamment chez les plus de 80 ans. Donc une vraie volonté d'arriver à améliorer un petit peu le ressenti de la population vis-à-vis de cette politique restrictive. Il y a également une volonté aussi de responsabiliser les gouvernements pour qu'ils allègent ces restrictions, puisque le gouvernement a même annoncé qu'il tiendrait pour responsables les gouvernements locaux qui mettraient des restrictions trop fortes sur la population. Donc tous ces éléments font que quelque part on entrevoit une volonté et une politique de sortie et un calendrier de sortie de ces politiques contraignantes zéro Covid en Chine qui ont astreint la croissance économique en Chine, qui ont contraint la production. Et donc, tout est plutôt bien orienté. On le constate, vous le disiez, sur le pétrole, mais on le constate aussi, il est vrai, sur le secteur des métaux qui rebondissent très fortement. Donc, tous ces éléments vont dans le sens d'une amélioration. Et puis, on a peut-être eu aussi un impact des chiffres de l'emploi que Sabrina mentionnait tout à l'heure aux États-Unis, qui laisse peut-être entrevoir un adoucissement du rythme de hausse des taux par la Réserve fédérale américaine, ce qui pourrait peut-être permettre au marché de reprendre un peu pied et d'avoir un peu moins peur du resserrement des conditions de crédit dans les mois qui viennent.
En effet, avec des progressions assez fortes hein, sur les matières premières, on voit le cuivre qui gagne plus de 3%, idem pour l'argent ou encore platine. Du côté des matières premières, sur le pétrole cette fois, il y a un rendez-vous qui sera à surveiller ce week-end, ça sera la réunion de l'OPEP+, ça se passera en visio dimanche. Quand on écoute un petit peu les analyses de marché, statu quo à attendre, quelles sont les attentes par rapport à cette réunion de l'OPEP+, sachant que vous avez aussi une date limite qui est fixée à lundi sur le plafonnement des prix du pétrole russe, mesure qui est voulue par l'Union européenne.
Oui, alors prenons les sujets séparément. Si on commence par la réunion de l'OPEP, Étienne, le statu quo est pour l'instant l'hypothèse la plus probable. C'est assez intéressant, c'est que la semaine dernière, on avait commencé à évoquer, le Wall Street Journal a sorti une information comme quoi l'OPEP réfléchirait à augmenter sa production pour essayer de peser sur le prix du pétrole. Ça a été très rapidement démenti et ça ne serait pas logique quand on regarde l'attitude de l'OPEP ces derniers mois. Pourquoi ? Parce que l'OPEP est là aussi pour garantir un prix. Et lors de la dernière réunion, lorsqu'elle a annoncé une baisse de sa production qui a été mal vécue, notamment par les États-Unis, le secrétaire général de l'OPEP, qui est le ministre koweïtien du pétrole, avait dit « il y a un prix pour tout et il y a un prix aussi pour la sécurité énergétique ». Et donc l'OPEP est dans cette logique de maintenir un prix du pétrole qui permette aujourd'hui aux compagnies pétrolières nationales, notamment dans les pays de l'OPEP, de réaliser les investissements nécessaires à l'approvisionnement en pétrole. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a cette notion d'importance de la transition énergétique, mais il y a une autre notion qui a refait surface très violemment avec la crise ukrainienne, c'est la notion de sécurité énergétique. Et aujourd'hui, les moyens de production de remplacement du pétrole, c'est-à-dire essentiellement les énergies renouvelables, n'étant pas à un rythme suffisant pour se passer du pétrole rapidement, le ministre koweïtien voulait juste rappeler qu'il allait falloir encore compter sur le pétrole pendant plusieurs années. Le pétrole est une matière première un peu capricieuse, c'est-à-dire que si vous ne faites rien, tous les ans, un puits de pétrole va donner de moins en moins de pétrole. Donc, si vous n'investissez pas, vous n'arrivez pas à maintenir votre production. Donc, il faut, pour que ces investissements se fassent, que le prix du pétrole reste sur un niveau suffisant. Et donc, ces derniers temps, on avait vu plutôt le prix du pétrole rebaisser. Et nous, on était plutôt d'avis, chez OFI Asset Management, de dire que la probabilité était plutôt à ce que l'OPEP décide d'une nouvelle réduction. Parce qu'ils ont besoin de maintenir un prix, on va dire, au-dessus des 80 dollars. C'est visiblement leur cible. Et quand on voyait le prix continuer à corriger, eh bien on se disait que ce qui devenait de plus en plus probable, c'était une correction. Alors, depuis 2-3 jours, le prix du pétrole a remonté. Donc, on peut s'attendre peut-être à un statu quo et à une mise sous surveillance du marché. En tout état de cause, Étienne, il faut garder en tête aussi autre chose pour les gens qui voudraient être trop optimistes sur le prix du pétrole. C'est que les États-Unis et les pays occidentaux, dans leur ensemble, ont déstocké énormément ces derniers mois pour essayer de maintenir des prix du pétrole qui soient, entre guillemets, raisonnables, qui ne s'envolent pas. Et donc, on a des stocks aujourd'hui dans les pays de l'OCDE, des stocks stratégiques qui sont au plus bas depuis 18 ans, depuis le début des années 2000. Et donc, il va falloir restocker à un moment ou à un autre. Et les Américains avaient été très clairs sur ce sujet. Ils avaient dit, on commencera à envisager le restockage dans nos stocks stratégiques quand les prix du pétrole reviendront vers 70 dollars. Et on est passé pas très loin la semaine dernière. Donc, il ne faut pas oublier qu'on arrive sur des niveaux du pétrole de l'autre côté qui vont être peut-être un petit peu contraints. Un, par l'OPEP qui pourrait décider d'une nouvelle réduction si les prix devaient trop s'enfoncer. Et deux, par les États-Unis qui pourraient profiter d'une correction du prix du pétrole pour restocker temporairement. Il ne faut pas oublier que sur l'année prochaine, on continue de penser qu'il y aura un stress important sur le marché du pétrole, en particulier si la Chine devait rouvrir.
Voilà, donc ça sera à suivre. Et puis donc, dimanche, réunion de l'OPEP+, donc ça sera en visio. Hein. Pour rappel, la dernière réunion du mois d'octobre, on avait l'OPEP+, qui avait décidé de réduire sa production de 2 millions de barils par jour. Sachant que, on le disait, dans le même temps, vous avez aussi l'Union européenne qui patine un petit peu, mais qui souhaite mettre en place des embargos sur le pétrole russe.
Oui, alors sur le pétrole russe et sur l'embargo... Les dernières nouvelles sont qu'il n'y a toujours pas d'accord trouvé, mais on est dans une situation qui est relativement cocasse, Étienne. Si vous voulez, aujourd'hui, les pays européens envisagent de mettre un prix maximum sur les négociations sur le pétrole russe qui va se situer quelque part entre, on parle de 65-70 dollars. Quand vous regardez la réalité du marché physique, la plus grosse référence de pétrole en Russie, c'est le pétrole de l'Oural. Et aujourd'hui, les deux pétroles de l'Oural qui sont échangés sur les marchés internationaux se traitent à des prix qui sont inférieurs à ce prix maximum que voudrait fixer l'Union européenne. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quelque part, ces mesures sont un peu des mesures de communication et des mesures, si elles devaient être prises, hein, pourraient être passées pour des mesures de communication et des mesures cosmétiques, parce qu'elles n'auront finalement pas d'effet sur les ventes de pétrole russe. Et j'ai envie de vous dire que malheureusement, c'est un peu ce qui est recherché, parce que on aimerait beaucoup pouvoir se passer du pétrole russe. Mais aujourd'hui, la Russie, c'est 5 millions de barils par jour d'exportation et on n'a pas de candidat pour remplacer le pétrole russe au niveau international. Donc, soit on met ce cap qui ne sert à rien parce qu'il est déjà au-dessus des prix pratiqués, soit on le met en dessous. Mais à ce moment-là, il faut raconter sur le fait qu'il y ait d'autres pays qui ne respectent pas ce cap et qui importent ce pétrole russe, parce qu'on aura besoin de ce pétrole russe, et c'est aujourd'hui tout le nœud gordien de cette discussion qui fait que, pour moi, cette mesure n'aura pas beaucoup d'impact, ce qui permettra sans doute de garder un prix du pétrole raisonnable. Si elle devait avoir un impact, on pourrait au contraire voir les prix du pétrole fortement monter compte tenu du manque de disponibilité de pétrole russe. Et on a le même problème sur le gaz. Hein. Aujourd'hui, on est vraiment dans une situation compliquée avec l'Europe qui veut également mettre un cap sur le gaz. Mais c'est extrêmement compliqué parce qu'aujourd'hui, comme on manque de gaz russe, il faut qu'on aille chercher ce gaz ailleurs. Si on met un cap, on ne sera pas en mesure d'acheter ce gaz qui partira, vu les quantités de gaz naturel liquéfié disponible, vers d'autres destinations, essentiellement vers l'Asie. Et donc, on pourrait se retrouver là dans l'incapacité d'acheter le gaz nécessaire pour nos besoins. Donc, tout ça fait que ces mesures de maximisation de prix n'ont jamais été très efficaces par le passé. Et il y a peu de chances qu'elles le soient également beaucoup dans les mois qui viennent.
Une fois qu'on a dressé ce bilan, ce constat, comment vous voyez les matières premières en termes d'orientation, notamment en ce qui concerne le pétrole? On est cet après-midi à 87 dollars pour le baril.
J'ai envie de vous dire que on a toujours été relativement clair sur le sujet chez OFI Asset Management. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a un manque d'investissement dans le secteur pétrolier. Malheureusement, on n'est pas aujourd'hui en mesure, et on n'a pas fait, après la crise sanitaire que l'on a connue, les efforts nécessaires pour essayer de se sevrer de notre besoin de pétrole. Résultat de tout ça, les prévisions sont pour l'année prochaine, en 2023, d'une nouvelle hausse de la consommation de pétrole dans le monde qui devrait atteindre un nouveau record de consommation à plus de 101 millions de barils par jour. Si dans le même temps, en face, vous ne faites pas les investissements nécessaires pour renouveler la production perdue, comme je le disais, à cause de la déplétion naturelle, on sait très bien comment ça se termine, Étienne. Ça se termine avec des prix qui montent. Donc nous, on reste persuadés que les prix du pétrole devraient se stabiliser quelque part, on va dire entre 95 et 105 dollars, mais qu'après, l'essentiel des risques vont se situer à la hausse, avec la possibilité, si la Chine accélère, si on a une normalisation de la situation économique aux États-Unis et une normalisation qui prendra peut-être un peu plus de temps en Europe, on pourrait très vite se retrouver en très forte tension. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les acteurs du marché pétrolier. Le patron de Saudi Aramco, la compagnie nationale pétrolière saoudienne, le disait il y a quelques semaines dans le Financial Times, si jamais la Chine redémarre l'année prochaine, nous ne savons pas comment nous allons faire face à cette augmentation de la consommation. Je vous rappelle, Étienne, qu'avant la décision de réduction par l'OPEP de sa production de 2 millions de barils, comme vous le rappeliez au mois d'octobre, l'OPEP était incapable d'atteindre le seuil de production qu'elle s'était elle-même fixé. Il produisait 1 360 000 barils par jour de moins que l'objectif qu'il s'était fixé. Donc on a aujourd'hui clairement une contrainte sur la production qu'il va falloir gérer. Donc pour nous, le prix de l'énergie, des énergies fossiles, pétrole et gaz également, à cause du problème de restockage l'année prochaine avec l'absence de flux en provenance de Russie, vont rester chers. Et côté énergie renouvelable, on va vouloir accélérer, ce qui va créer aussi des tensions, cette fois-ci sur le prix des métaux, parce que on ne fait pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil, il faut un transformateur, une éolienne ou un panneau solaire, que ces transformateurs sont essentiellement faits de métaux et qu'aujourd'hui on n'a pas fait les investissements suffisants dans le secteur minier pour avoir les ressources nécessaires à un développement en toute quiétude et à plus grande ampleur des énergies renouvelables nécessaires pour se passer du pétrole.
Merci beaucoup Benjamin. Benjamin Louvet donc, qui nous accompagnait aujourd'hui, gérant matières premières chez Ophi Asset Management, qui donc nous livrait en visio son expertise sur les métaux, sur les matières premières. Merci de nous avoir accompagnés cet après-midi, 15h48. Tout de suite, on vous apporte une valeur à l'achat.
BFM Business, BFM Bourse, valeur ajoutée.
Une valeur ajoutée plus précisément, et ce n'est pas nous, mais c'est plutôt Renaud Ramet qui vous apporte cette valeur ajoutée. Bonjour Renaud Ramet, merci de nous accompagner aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes gérant chez Promépar Asset Management et aujourd'hui vous nous proposez de regarder Soitec.
Oui, bonjour Étienne. Oui, Soitec, donc ETI française, hein, basée à Grenoble, est un fournisseur de substrats innovants pour l'industrie des semi-conducteurs. Hein, donc c'est un fabricant de wafers, dont il est leader sur la technologie SOI, hein, le silicium surisolant. Alors le groupe opère à partir de ses centres de production basés à Grenoble et à Singapour, et il dispose de plus de 3500 brevets, qui lui permettent d'adresser essentiellement trois marchés, la communication mobile, hein, ce sont les smartphones, hein, plus de 70% de chiffre d'affaires, le secteur automobile, ainsi que les objets connectés. La solidité de son bilan est également un atout qui lui permet d'investir fortement, à 6% de budget de R&D dans l'extension de ses capacités de production pour soutenir la croissance et des relais technologiques, évidemment, tels que le carbure de silicium ou la technologie dite Smart SiC, qui est évidemment moins énergivore. En bourse, le titre capitalise 5,5 milliards d'euros et a précisé que Promépar est actionnaire de la société à travers l'un de ses fonds. Alors, dernièrement, la société a publié de solides résultats semestriels au cours duquel on a vu un deuxième trimestre rattraper fortement un premier trimestre qui avait été décevant. La marge d'EBITDA ont dépassé le consensus grâce à une efficacité industrielle qui a évidemment pu compenser des effets négatifs de la hausse des coûts de production. Mais surtout, le nouveau management a pu confirmer ses objectifs pour l'exercice 2022-2023 avec une croissance de chiffre d'affaires de plus de 20% et une marge d'EBITDA à 36%. Alors, le marché s'interroge évidemment actuellement sur la faiblesse du marché des smartphones. Alors, la société s'exprimera au printemps prochain sur peut-être des nouvelles perspectives. Néanmoins, on peut rappeler un positionnement plus résilient sur le marché des smartphones haut de gamme sur lequel Soitec possède une pénétration de plus de 50%. En outre, à date, la société connaît toujours une forte demande sur le secteur automobile et en termes de produits, également une dynamique plus robuste qu'attendue sur la technologie FD-SOI avec de nombreuses qualifications à venir. Donc, au-delà de simplement miser sur la 5G via Soitec, on peut également viser une plus forte pénétration des technologies du groupe dans ses marchés finaux. Alors, au-delà au-delà de ces éléments fondamentaux, on peut également noter ce qu'on peut appeler une forme de décote de valorisation qui devrait se réduire. Ensuite, donc à l'arrivée d'un nouveau patron en début d'année, Pierre Barnabé, la société avait connu une crise de gouvernance qui avait un peu éclaté au grand jour avec des craintes et de risques associés habituels, instabilité du COMEX ou quelle orientation stratégique. Ce qu'on peut dire à ce jour, c'est que la nouvelle direction s'est vraiment attelée plutôt à rassurer le marché. On note une stabilité des équipes et surtout un cap stratégique maintenu par le nouveau CEO, en tout cas pas de revirement stratégique majeur pour le moment, donc ce qui induit une meilleure visibilité et pourrait réduire cette décote de valorisation qui avait été immédiatement appliquée par le marché. Et en guise de peut-être de prime ou de cadeau de Noël avant l'heure, il y a évidemment des catalyseurs, plutôt un catalyseur court terme qui serait attendu, qui pourrait être l'annonce d'un client de référence sur sa technologie phare en termes de perspective de croissance, SmartSiC, avant la fin de l'année. Le marché serait également retiendrait de manière tout à fait positive et l'annonce d'un partenariat avec un leader du marché. En termes de valorisation, le groupe est un porto décoté par rapport au pair. Il est en baisse de moins de 28% depuis le début de l'année. Alors il y a eu cette crise de gouvernance, évidemment la sensibilité taux et des valeurs technologiques de croissance, mais en tout cas il baisse plus que par exemple que ST Microelectronics depuis le début de l'année, et que même malgré le fort rebond du titre sur le mois, les multiples 2024 estimés sont encore inférieurs de 30% aux moyennes 5 ans, avec un PE estimé à 22 fois. Évidemment, la société n'est pas exemple de risque. On rappellera la sensibilité dollar du groupe, 5 centimes, c'est un point d'EBITDA. Mais surtout, peut-être pour nous, à nos yeux, le plus grand challenge consistera pour la nouvelle direction à faire grandir Soitec, à doubler et aller au-delà en termes de chiffre d'affaires. Nécessitera une structuration de la société sans perdre cette culture d'innovation qui a fait la sienne et justement d'arriver à faire grandir harmonieusement une société qui est appelée à maîtriser une forte croissance.
Et donc vous êtes à l'achat sur cette valeur avec un objectif de cours de 200 €. Merci beaucoup Renaud Ramet de nous avoir accompagné aujourd'hui par téléphone depuis Promépar, dont vous êtes gérant. Conseil donc à l'achat sur Soitec, qui est bien orienté aujourd'hui, un titre qui gagne un peu plus de 0,5% à 154 €, et donc objectif de cours à 200 € sur Soitec. Tout de suite, on répond à vos questions.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Vos placements, nos conseils et surtout les conseils de Gilles Petit qui nous accompagne aujourd'hui en plateau. Bonjour.
Bonjour Étienne.
Je rappelle que vous êtes journaliste finance chez LinkedIn Actualité et donc on a encore reçu beaucoup de questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur LinkedIn à Gilles Petit et puis aussi à BFM Business, bfmbourse@bfmbusiness.fr, avec notamment une question de Jeanne concernant l'investissement responsable. Dernièrement, plusieurs sociétés de gestion ont annoncé qu'elles allaient rétrograder leur fonds article 9 en article 8. C'est très technique, mais vous allez nous expliquer. Elle nous pose la question, est-ce que ça veut dire qu'elles vont être moins engagées dans le développement d'une finance plus responsable ?
Voilà, et ben Jeanne nous pose encore une question tirée les marrons du feu. Effectivement, certains fonds, on a eu l'annonce de la rétrogradation de certains fonds. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui ne seraient pas aussi férus d'investissement en finance durable que Jeanne, la directive SFDR européenne, enfin le règlement en tout cas, a créé trois types de fonds. Les fonds article 6, les fonds article 8 et les fonds article 9. Les fonds article 6 sont des fonds qui sont des fonds gérés de façon classique. Les fonds article 8 sont des fonds qui tiennent compte des fameux critères ESG, environnement, social et gouvernance. Et les fonds article 9, effectivement, sont des fonds qui revendiquent une gestion à impact, ce qui veut dire tout simplement que quand on investit dans ce fonds, on est en droit normalement d'attendre que son investissement va avoir un impact réel sur l'environnement, sur le social au sein de l'entreprise. Et comme le répète Jeanne, nous le dit Jeanne, effectivement, certains fonds ont été rétrogradés. Alors, je vous fais un petit spoiler alerte, parce que je ne sais pas combien de temps on aura, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est une bonne nouvelle. La première, c'est qu'effectivement, ce règlement SFDR que je viens de citer a été mis en place pour éclairer les gérants. Le seul problème de ce type de règlement, c'est, comme avec la plupart des règlements européens, c'est qu'ils ont toujours besoin d'être précisés. C'est-à-dire qu'on donne un grand cadre et ensuite chacun s'arrange un petit peu, fait sa petite tambouille pour placer ses produits. Et là, ce qui s'est passé effectivement, c'est que beaucoup de fonds ont été, un certain nombre de fonds ont été classés en article 9, donc comme des produits qui avaient un impact réel, sans que derrière, il y ait finalement un contrôle, puisqu'il n'y a pas de contrôle a posteriori. C'était simplement du déclaratif. C'est pour ça que Jeanne nous dit aujourd'hui, mais c'est quand même bizarre, on rétrograde des fonds qui étaient neufs, on nous disait qu'ils avaient un impact, et puis alors ça veut dire que s'ils sont 8, ils n'ont plus d'impact, mais alors avant, est-ce qu'ils avaient vraiment un impact ? Bon, ce qui se passe, c'est que effectivement, et je pense que vous vouliez me le demander, c'était, mais alors, est-ce que les sociétés de gestion se sont réveillées un beau matin en se disant, bah, tiens, mince, on s'est gouré, on aurait dû les mettre en article 8 et ils étaient en article 9. C'est pas aussi simple que ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les sociétés de gestion ont créé des gammes. Elles ont mis des articles 8, des articles 9. Et ça tombait très bien, puisque le développement durable, l'environnement, la protection, la lutte contre le réchauffement climatique étaient des thématiques qui étaient en vogue. Donc, les clients se sont rués sur ce type d'investissement. Le problème, c'est que on avait besoin de resserrer un petit peu les mailles du filet, parce que c'était bien beau de faire du déclaratif, mais enfin, on n'était pas certain de toutes les conséquences. Et Jeanne, qui nous suit depuis maintenant un peu plus de 2 ans, sait qu'à l'été dernier, j'étais passé sur cette antenne pour lui parler d'une étude qui avait été faite par l'université d'Hambourg, justement sur cette catégorie des fonds à impact, les fameux articles 9. Et en gros, qu'est-ce qu'elle disait, cette étude ? Elle disait, un, on a l'impression que la notion d'impact est un petit peu brumeuse, voire fumeuse. On ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Et la deuxième, c'était que si on considérait l'ensemble des fonds européens qui étaient classés comme des fonds à impact, article 9, eh bien, on se rendait compte que seulement 37% avaient véritablement un impact sur l'environnement et en tout cas sur la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'était déjà un premier indice. Et puis l'Europe a mis en place, enfin en tout cas a changé la directive MiFID, elle a un petit peu adapté, pour que depuis le 2 août dernier, les conseillers en gestion de patrimoine, lorsqu'ils recueillent l'avis de leurs clients, se penchent un petit peu sur leur avis en matière d'environnement. Est-ce qu'ils sont sensibles à l'environnement ? Est-ce qu'ils ont envie d'investir dans l'environnement ? Donc ça, c'était un premier élément pour resserrer les mailles du filet. À partir de ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que toutes les autorités européennes de régulation bancaire ou de sociétés de gestion se sont dit, bon, ok, c'est très bien tout ça, mais on a des fonds article 9 qui visiblement ne sont pas vraiment des fonds à impact, on aimerait bien avoir des éclaircissements. Donc elles se sont mises ensemble pour faire une belle lettre à la Commission européenne et ont posé tout un tas de questions. Et parmi ces questions-là, il y a une question qui était très intéressante, qui était, mais est-ce que quand un fonds fait de l'impact, est-ce qu'il ne fait pas aussi de l'impact négatif ? Vous voyez un petit peu où je veux en venir. C'est-à-dire que on était sur de l'impact positif pour lutter contre le réchauffement climatique, préserver l'environnement, et on s'est rendu compte que finalement, il y avait certains fonds à impact qui pouvaient aussi avoir un impact négatif. Partant de là, curieusement, un certain nombre de sociétés de gestion ont déclassé leurs fonds en article 9 pour les passer en article 8. Voilà pourquoi Jeanne s'émeut aujourd'hui qu'on ait effectivement des fonds qui prétendaient être impact et qui ne le sont pas. Alors, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein, comme je vous le disais.
On gagne en transparence au final.
Alors, on gagne en transparence, effectivement. Et puis surtout, Jeanne, comme elle a fait pour beaucoup de gens qui nous écoutent, elle a lu la presse financière, et ça c'est très bien, je la félicite, il faut continuer. Mais la presse financière s'est fait surtout les gorges chaudes de ces rétrogradations, sans parler des fonds qui ont été upgradés, comme on dit en finance, c'est-à-dire des fonds qui sont passés dans la catégorie supérieure. Vous avez des fonds qui étaient article 6, qui ne faisaient rien, qui sont passés en article 8, donc qui prennent en compte maintenant des critères ESG, ce qui est très bien, mais vous avez aussi des fonds qui ont été passés de l'article 8 à l'article 9. Donc des fonds qui étaient peut-être ESG, mais qui maintenant sont carrément des fonds à impact. Donc, au bout du bout, la question de Jeanne est très intéressante, puisqu'au bout du bout, qu'est-ce qu'on a ? Comme vous le dites, on a une plus grande transparence. Maintenant, on est certain que les fonds à impact ont vraiment un impact et certainement un impact positif et pas négatif sur l'environnement et sur tout ce qui compte pour l'entreprise. Et puis, la dernière chose pour l'industrie des sociétés de gestion, c'est que maintenant, on a quelque chose qui est vraiment comparable au niveau de l'Europe et donc on a un train d'avance sur les États-Unis.
Voilà, Jeanne, j'espère qu'on a répondu à votre question. Merci beaucoup, Gilles Petit. Merci d'avoir répondu à la question de Jeanne. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur BFM Business avec notamment l'adresse mail que vous connaissez désormais, bfmbourse@bfmbusiness.fr ou directement directement à Gilles Petit sur LinkedIn, qui a essayé de répondre en quelques minutes à une question assez complexe, et on le remercie. Merci beaucoup. 16h01, on est un petit peu en retard, on s'en excuse, on fait une très courte pause, et puis on se retrouve dans un instant avec notamment Odker Sulek. On fera un point sur la séance du jour, et vous le verrez, il y a des bonnes nouvelles, belles variations sur l'indice parisien qui retrouve les 6700 points. On voit ça dans un instant, à tout de suite.